ce petit rayon de soleil, Mimi, c'est formidable. J'ai pu lire le journal sur le petit banc.
Peut-être que j'aurais dû te prévenir. Je pensais que tu sentirais l'odeur de la peinture fraîche.
L'école, l'éducation est un des premiers espaces qui fait société dans notre vie, un espace qui nous aide à poser un regard sur le monde, le nôtre, un des premiers moments où le vivre ensemble est primordial. L'éducation, la jeunesse est particulièrement au cœur de ces élections législatives anticipées dans les discours des différents partis et candidats. Et justement, je trouvais intéressant de pouvoir en parler aujourd'hui dans cette émission avec notre invité d'aujourd'hui, Aurélien Petit-Fils, représentant du syndicat Sud Éducation 53. Bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation.
Bonjour, merci pour votre invitation.
Nous aborderons un peu tout à l'heure l'état du système éducatif ensemble. Il y a eu des différentes alertes, notamment cette année, lancées par les syndicats. Aujourd'hui encore, un appel à manifester est lancé pour ce week-end. On va parler des perspectives en matière d'éducation à partir des différentes politiques qui s'offrent à nous pour ces élections et quels sont les besoins qui remontent directement des professionnels de l'éducation. On échangera là-dessus ensemble dans quelques instants. Et alors, je ne suis pas seule en studio, je suis aussi avec Léane. Bonjour, comment tu vas ?
Bonjour, ça va et toi ?
Ça va très très bien. On te retrouve tout à l'heure justement pour l'actu en bref et un point météo. Et avant de terminer, on terminera justement aujourd'hui notre reportage sur la découverte des forêts-jardins avec l'association normande Danube qui accompagne Sophie, une Mayennaise qui souhaite créer une antenne à Préau en Mayenne. On découvrira ça en seconde partie d'émission, les différentes actions inclusives de l'association auprès des différents publics ainsi que son accompagnement auprès des porteurs de projets. L'émission se terminera avec Vincent du collectif Tact qui nous propose la dernière chronique de l'agriculture paysanne de l'année et aujourd'hui il nous parlera des AMAP. Bienvenue à vous, amis auditeurs, je suis Margot, on passe ce moment ensemble et quand je dis ensemble, c'est en parlant aussi de notre invité d'aujourd'hui, Aurélien Petit-Fils, qui représente aujourd'hui le syndicat Sud Éducation 53. Alors peut-être pour commencer cet échange, je vous propose qu'on fasse peut-être un bilan du système, de l'état du système éducatif aujourd'hui. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire ?
Eh bien, on a une école publique qui a de plus en plus de mal à fonctionner à cause d'un manque de moyens de professeurs, mais également des classes de plus en plus surchargées, un manque d'AESH, donc ces femmes en majorité qui aident les élèves en situation de handicap. Et malgré toutes les alertes lancées par les syndicats, eh bien, on a peu de réponses en face depuis 7 ans que le gouvernement d'Emmanuel Macron, enfin que Emmanuel Macron est au pouvoir.
Oui, parce qu'il y avait effectivement quand même différentes alertes. La surcharge des classes, ça fait un moment qu'on en entend parler. Donc rien de concret en réponse à ça. Là, notamment, dernièrement, on entend parler de la réforme des chocs des savoirs. Qu'est-ce que comment vous vous positionnez par rapport à ça ?
Cette réforme, c'est simple. C'est la réforme du tri social des élèves. Dès l'école primaire avec les évaluations nationales qui vont servir ensuite à trier les élèves à l'entrée en 6e et en 5e pour la rentrée prochaine dans des groupes de niveau que maintenant il faut appeler groupes de besoin, on ne sait plus trop, en 6e et en 5e donc en maths et en français. Il y a également la seconde prépa pro qui a été créée au lycée puis Parcoursup, donc on voit que finalement très tôt on met les élèves dans des rails selon leur niveau entre guillemets et puis soit ils vont en filière professionnelle soit en filière générale. Voilà, on est très loin de l'école émancipatrice que nous prônons à Sud Éducation 53.
Par exemple, le choc des savoirs, qu'est-ce que ça signifiera concrètement dans les classes l'année prochaine ?
Concrètement, pour un élève de 6e qui fait sa rentrée au collège, un tiers de ses heures, il ne sera pas dans sa classe, par exemple la 6e C, mais en maths, il sera peut-être dans le groupe 2 et en français dans le groupe 1. Donc pour la construction de l'élève, c'est très compliqué parce qu'on n'a pas un groupe classe qui est fixe. Et puis évidemment, il va être marginalisé, montré du doigt s'il est dans le groupe dit faible. Alors il n'aura pas ce nom-là, mais les élèves sont intelligents, les élèves ne seront pas dupes. Hein. D'ailleurs, quand ils en discutent, ils sont outrés par le fait d'être classés comme cela. Donc ça va être très, très compliqué pour eux. Et puis on n'a même pas les moyens de toute façon de les mettre en place. Mais toute la profession des professeurs, les parents d'élèves, mais également beaucoup d'inspecteurs et d'inspectrices, mais aussi principaux et principales de collège, sont contre cette réforme. Et malgré toutes les alertes, toutes les manifestations qu'il y a eu, eh bien, il y a un passage en force du gouvernement qui ne nous écoute pas et qui refuse de reculer sur cette réforme qu'ils veulent même étendre au 4e et au 3e à la rentrée 2025.
Oui, puisque de toute façon, dans une classe, concrètement, il y a forcément de toute façon des différences de niveau. Mais le fait justement de mélanger tous ces niveaux, c'est aussi tirer les élèves peut-être qui sont sur certains points un peu plus en difficulté que d'autres. Et bah, ça tire vers le haut d'avoir aussi des élèves un peu plus à l'aise dans certaines matières à côté d'eux.
Exactement. L'hétérogénéité dans une classe, c'est une force. Mmh. On a tous vu que des élèves qui ont des difficultés vont être aidés par des camarades qui, eux, en ont moins. Nous prenons donc l'école inclusive pour toutes et tous. Eh bien, cela fonctionne à condition qu'on ait évidemment les moyens. C'est beaucoup plus facile de faire des tutorats dans des classes si on a 19, 20 élèves, 22 dans une classe, que si on est à 28, 29 ou 30 élèves. Donc, cela passe par des moyens. Pour réduire les effectifs dans les classes, et là on pourra vraiment faire progresser tous nos élèves. Mmh. Là actuellement on nous demande de faire des groupes de besoins ou de niveau, mais on a des classes à côté en histoire géo, en SVT, en anglais qui sont surchargées. Donc ça n'a aucun sens. Et on a de toute façon peu de moyens en plus pour faire les groupes, ces groupes-là.
Ok. Je le disais, c'est vrai, on le sait tous, de toute façon, il y a les élections législatives anticipées qui auront donc lieu le 30 juin et le 7 juillet. Pour l'instant, le Rassemblement national est en tête des sondages, suivi de près par le Front populaire. Et puis, il y a évidemment le parti présidentiel qui, pour l'instant, peine encore un peu à monter. Dans ce contexte, qu'est-ce que vous pensez des différentes propositions politiques ?
Eh bien, concernant le Rassemblement national et l'offre de la majorité présidentielle, on a des choses qui se ressemblent. Hein. J'ai lu le programme de Marine Le Pen pour préparer cette émission, donc pour la dernière présidentielle, et je vous le cite, il parle de renforcer l'orientation précoce des élèves tout en l'adaptant à la demande des entreprises. Donc on est vraiment dans l'école capitaliste du tri social, mais qui correspond là au choc des savoirs. On a également le mot d'autorité qui revient souvent. Et on peut le mettre en parallèle avec la militarisation de l'école, là, avec le SNU que Emmanuel Macron a annoncé vouloir rendre automatique à la rentrée 2026, ce qui coûterait 3 millions d'euros, c'est déjà beaucoup, ça équivaut à 50 000 postes d'enseignants. Donc vraiment, on a une vision de l'école qui est vraiment à l'opposé de celle que nous, on prône à celui d'éducation 53, qui est antiraciste, antisexiste, anticlassiste, antivalidiste, une école émancipatrice. Et donc, voilà, avec ce choc des savoirs dont on parlait avant, il y a aussi la labellisation des manuels à l'intérieur. C'est une idée du Rassemblement national, mais mise en place par le gouvernement actuel. Donc, c'est-à-dire qu'on a peu de moyens, mais les moyens qu'on a pour acheter des nouveaux manuels à des classes, si on veut les avoir, il faudra passer par les manuels labellisés par le gouvernement. Donc on peut très bien imaginer ce que cet outil peut devenir entre les mains d'un gouvernement d'extrême droite.
Éventuellement qu'une certaine idéologie s'immisce directement en fait, dans les programmes scolaires ?
Bien sûr, moi je suis professeur d'histoire géo, j'ai très peur d'une nouvelle mouture des programmes avec un gouvernement du Rassemblement National. Qu'est-ce qu'on va nous demander de dire à propos de la colonisation ? En ce moment j'enseigne l'affaire Dreyfus, est-ce que je pourrais toujours l'enseigner tel que je le fais actuellement ? Voilà, il y a beaucoup de craintes, mais aussi un grand esprit de résistance et de combat actuellement, de lutte dans les différents syndicats, parce que voilà, pour contrer la menace de l'extrême droite.
J'ai aussi envie de parler avec vous de l'impact que vous pouvez constater aujourd'hui directement sur les élèves. Comment est-ce qu'eux vivent aujourd'hui l'éducation, l'école, que ce soit au collège, lycée ou même avant, dans ce contexte où il y a des professeurs manquants, où les classes sont surchargées. Quel est l'impact sur le parcours d'un élève aujourd'hui ?
Eh bien, l'impact, il est direct. C'est beaucoup plus difficile d'assimiler des connaissances, mais aussi d'améliorer ses compétences dans des gros groupes classes. Quand on a des professeurs qui sont parfois absents parce que en burn-out, par exemple, mais avant, on avait des remplaçants ou des remplaçantes. Maintenant, il n'y en a quasiment plus. Je pense notamment au premier degré. Donc, on a de plus en plus de mal à faire cours convenablement. Et donc, évidemment, les élèves en pâtissent. C'est plus difficile pour leur parcours. Moi, actuellement, je suis professeur principal, concrètement, de 6e. Là, on s'est battu pour ouvrir une 4e classe parce que je ne me voyais pas être professeur principal de 28, 29, 30 élèves en 6e. Comment passer du temps avec eux, chacun, derrière chacune d'elles, pour les aider. Un cours de 55 minutes, 29 élèves, c'est moins de 2 minutes par élève. Donc voilà, ils ont besoin d'attention. Ça reste des enfants, hein, mais de la maternelle jusqu'au lycée. Hein, et c'est normal, un élève a besoin d'attention, d'être mis en confiance, qu'on l'aide. Et moins ils seront dans la classe, mieux on pourra les aider.
Oh, puis une petite parenthèse, on voit les chiffres de l'état même de la santé mentale des jeunes aujourd'hui, ils ressentent des difficultés, des angoisses, des perspectives d'avenir aussi. On a pu entendre dans cette émission le témoignage d'un jeune de 15 ans qui parlait de la situation climatique qui est effrayante pour lui. Donc la projection dans l'avenir pour les jeunes aujourd'hui est compliquée. Et l'école est le lieu peut-être aussi où on peut échanger là-dessus, mais dans un contexte favorable évidemment.
Ah bah oui, l'école publique doit être un lieu d'émancipation pour les élèves, où ils peuvent poser leurs questions, mais surtout que nous, professeurs, on leur donne les outils, les clés pour pouvoir y répondre, développer leur esprit critique. C'est très important, notamment à l'heure des réseaux sociaux et de l'éducation aux médias en général, leur donner les outils pour dénouer tous les enjeux de notre époque.
Est-ce qu'on peut peut-être résumer justement, donc, quelles sont les revendications, les besoins directement du terrain, des salles, des écoles, des collèges, des lycées aujourd'hui? Qu'est-ce que l'éducation demande et de quoi est-ce qu'elle a besoin?
Alors, beaucoup de choses, étant donné le tableau un peu noir qu'on vient de dresser ensemble. Évidemment, la baisse des effectifs, du nombre d'élèves par classe. On réclame plus de moyens et de l'argent, il y en a. Quand on voit qu'actuellement, les budgets pour l'école privée augmentent plus rapidement que pour l'école publique. Donc voilà, alors qu'il y a très peu de mixité sociale dans les établissements privés. Donc ça, c'est un véritable scandale. On veut aussi la fin de Parcoursup. On veut la fin de l'école qui trie les élèves. On ne veut pas de tri social. On veut une école émancipatrice. Augmenter aussi les salaires dans l'éducation pour renforcer l'attractivité du métier, pour qu'il y ait davantage de professeurs. Mais ça, on pense aussi aux AESH, aux AED, qu'on appelle les surveillants, donc, dont les salaires sont encore trop bas. Renforcer la médecine scolaire pour permettre une meilleure école inclusive, tout simplement. Et titulariser aussi toutes les AESH qui sont des métiers très précaires encore.
Très précaires, effectivement. Parmi toutes ces revendications, il y a certaines choses qui m'ont fait écho, notamment effectivement le cas des AESH qui figurent dans le programme du Front Populaire en l'occurrence.
Alors oui, nous à Sud Éducation 53, nous avons pris la décision d'appeler à voter pour le Front Populaire. Alors évidemment, on reste tout de même un contre-pouvoir, un syndicat, et si le Front Populaire est élu comme on le souhaite, nous serons toujours là en vigilance et en contre-pouvoir. Mais en effet, le programme de l'éducation qui est sorti là, du Front Populaire, nous convient, même si évidemment, on sera toujours vigilant pour qu'il soit appliqué et pour arracher d'autres victoires, aller encore plus loin. Mais il est très ambitieux sur le nombre d'élèves par classe, les AESH et la titularisation des AESH, c'est mentionné, ainsi que la fin de Parcoursup. Donc voilà, la décision qui a été prise par Sud Éducation 53.
Il y a donc, on le disait tout à l'heure, une manifestation qui est prévue ce week-end. Qu'est-ce qui est important pour vous dans le fait de sortir dans la rue aujourd'hui pour revendiquer un rejet de l'extrême droite?
Déjà, on s'est appuyé sur la dernière manifestation le samedi dernier qui a été un véritable succès à Laval, notamment à travers la jeunesse qui était dans le cortège. Et donc on a décidé, mais c'est pas que solidaire, il y a la CGT, mais la FSU au niveau des syndicats et de nombreuses associations lavalloises, à appeler à une nouvelle manifestation, donc samedi 22 à 17h, départ au Parvis des Droits de l'Homme, contre l'extrême droite, parce qu'il y a une réelle demande, il y a un réel besoin des gens de se regrouper, de faire corps, de faire société et de montrer qu'on ne baisse pas les bras.
Et vos permanences, vous êtes ouverts actuellement tous les jours, je crois?
Oui, tous les jours de la semaine, de 17h à 21h, le local solidaire est ouvert pour toutes celles, tous ceux qui veulent récupérer du matériel, qui veulent partir dans les opérations de collage d'affiches, mais qui veulent aussi prendre contact. On veut vraiment créer du lien pour mener la lutte toutes et tous ensemble. Et ça fonctionne bien. Donc j'invite tout le monde à continuer à venir au local, donc de 17h à 21h. C'est Parvis des Droits de l'Homme, justement. C'est là où il y a le départ de la manif aussi samedi. Voilà, on a reçu des magnifiques autocollants et grandes affiches aujourd'hui qui n'attendent que d'être collées. Donc voilà, tout le monde est bienvenu.
Merci beaucoup Aurélien Petit-Fils d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et donc évidemment, on invite nos auditeurs à regarder en détail les programmes. C'est important de se fier à des programmes, effectivement. Merci Aurélien.
Merci à vous.
Avant de passer à l'actu en bref avec toi, Léane, tu nous proposes un morceau. Qu'est-ce qu'on écoute?
Alors on écoute la reprise de Modern Love par Zao de Sagazan, une version parfois critiquée car estimée moins parfaite que celle de David Bowie. Mais il y a une telle énergie et une authenticité qu'elle en devient justement parfaitement imparfaite.
et on passe à l'actu en bref avec toi Léane.
Cran inondé, c'est ce qu'annonce le Ouest France ce matin. Suite aux crues qui auraient eu lieu dans l'Oudon, le centre-ville de Cran est désormais inaccessible. Le niveau de l'eau aurait dépassé les 3 mètres vers 8 heures, soit un niveau supérieur aux crues historiques de 1996. Sont interdites également la rue de la Libération, la rue du Neuve, rue du Vieux-Pont ou encore la rue de l'Yperon, de l'Éperon, du Miroir, la rue des Douves et la Grande Rue. La ville a dû organiser une distribution d'eau pour les habitants coincés chez eux. 25 pompiers sont actuellement mobilisés pour les évacuer. D'autres inondations seraient aussi observées ailleurs dans le département, comme à Athé ou à Bonchamp-lès-Créon. Enfin, l'intersyndicale de la Mayenne appelle à une mobilisation massive contre l'extrême droite. Une manifestation aura lieu samedi 22 juin à 17h, place des droits de l'homme à Laval. Et vendredi 21 juin, si vous comptez aller à la fête de la musique, il est important de respecter certaines règles de sécurité. Le préfet de la Loire-Atlantique rappelle dans un communiqué qu'il est interdit d'enlever ou de transporter tout carburant par jerrycan ou autre récipient, de porter, de transporter ou d'utiliser des artifices de divers et de porter ou de transporter tout objet pouvant constituer une arme, du vendredi 21 juin à partir de midi jusqu'au samedi 22 juin 8h.
Et la météo, Léane ?
Quelle météo ?
La météo, tu sais, le moment où tu annonces la pluie, le beau temps.
Où j'annonce quoi ?
Je sais que c'est ton quatrième jour, mais quand même, Léane.
Mais justement, Margot, je suis dépitée là.
Dépitée, comment ça ?
Bah oui, ça fait 3 jours que je m'évertue à proposer une météo sympa qui parle à tout le monde, mais dès que j'annonce quelque chose, il se passe le contraire, du moins à Laval. Quand je dis qu'il y a des éclaircies, il y a des orages, quand j'annonce la pluie, il ne pleut pas, et si je dis qu'il y aura des nuages, il fait beau.
Et aujourd'hui, alors t'as prévu quoi ?
Eh bien aujourd'hui, on serait en vigilance rouge, ils annoncent des orages toute l'après-midi et en soirée aussi.
Et demain ?
Demain, ce serait gros nuages partout avec de la pluie dans le sud de la Mayenne et un retour au soleil l'après-midi sur tout le département.
Bon, bah, j'ose espérer que la météo continuera à se moquer de toi jusqu'à demain matin.
Reste vigilante quand même, elle serait capable de ne pas me contredire juste pour me contredire.
Merci pour ces précieux conseils, Léane. Depuis 2 jours, nous découvrons ensemble le concept de forêt-jardin avec l'association Danube qui installe une antenne en Mayenne avec Sophie qui porte ce projet à Préau. Aujourd'hui, c'est notre dernier épisode. Chloé et Mathieu nous parleront de l'accompagnement de l'association pour la création d'une forêt-jardin ainsi que son action inclusive auprès des différents publics. C'est un reportage signé Caroline Delaval. Écoutez.
Sur les premières années, il y a un petit peu d'entretien. C'est notre pire ennemi, c'est l'herbe. Donc on essaye de garder à peu près 1 mètre de diamètre autour des arbres, toujours paillés, pour éviter la repousse, pour protéger les arbres du gel et éviter l'évaporation aussi en été. Donc les 2 à 3 premières années, on essaye de bien garder les arbres paillés. Et en cas de grosse sécheresse en été, on peut être amené à arroser aussi. Pour permettre vraiment la croissance des arbres sur les 3 premières années. Une fois ces 3 années-là passées, normalement, oui, c'est plus que du petit entretien, de la taille. Suivant s'il y a beaucoup de chevreuils ou pas sur le terrain, commencer à enlever les protections aussi autour des arbres, parce qu'on protège chaque arbre. Nous, en Normandie, on les protège avec des poches à huîtres, parce qu'on a donc... On a des fournisseurs, donc ça permet aussi du recyclage, hein, parce que sinon les poches à huîtres sont des éléments qui partent en déchetterie. On peut commencer, si le terrain n'est pas trop sujet à des attaques de chevreuils, commencer à libérer les arbres. Et la taille, on va dire qu'elle va arriver même un peu plus tard, vers 4-5 ans de vie du terrain. Et après, il reste la cueillette, qui sera sûrement le moment le plus agréable. Et la cueillette peut même commencer bien avant, parce que voilà, nous, on commence dès la première année, on faisait déjà de la cueillette sur notre terrain, avec les plantes qui étaient déjà sur place. Comme je dis, c'est les orties, les sureaux, on peut cueillir les prunes sauvages dans les bocagères. Il y a déjà beaucoup à faire avec ce que peut offrir la nature avant le début du jardin forêt. Par contre, il faut quand même avoir conscience qu'il faut repailler les arbres, on va dire, une fois l'an, sur les 3 premières années, ou 2 fois l'an, suivant la quantité de paille qu'on aura mis la première fois. Et des herbages aussi au printemps, au moment où la végétation commence à s'épanouir. En général, il y a besoin d'un gros désherbage. Donc voilà, ça va aussi dépendre de la superficie, mais vaut mieux être accompagné, avoir un petit groupe de volontaires pour ces moments et en faire des moments agréables et conviviaux. Sur les deux premiers terrains de l'association, du côté de Bayeux, en Normandie, on a, on va dire, une bonne vingtaine de bénévoles actifs qui viennent tout au long de l'année. Et en plus, on travaille avec des structures médico-socio-éducatives, je ne sais plus où est-ce que, dans quel ordre il faut les mettre. On travaille avec un DME, un dispositif médico-éducatif pour enfants, un foyer de vie pour adultes et un ITEP aussi pour jeunes. Et donc, en fait, nous, c'est vraiment un jardin qui vit tout au long de l'année et tout au long des semaines. On a des activités à la fois pour les bénévoles en week-end et pour les structures en semaine. C'est un jardin qui est quand même assez entretenu et puis c'est, voilà, c'est un peu la vitrine aussi pour les visites. Il y a deux objectifs principaux. Quand on reçoit des structures, ça va être en premier lieu l'inclusivité, c'est-à-dire que ces publics qu'on peut appeler fragiles, ça les sort de leur établissement, ça les sort de leur rapport où ils sont toujours avec des éducateurs. Et là, ils vont se retrouver avec des bénévoles de tous bords, de tout âge. Voilà, on a des bénévoles de 20 à 75 ans, 77 ans. Donc ça fait vraiment un mélange, une mixité entre les publics qui viennent et les bénévoles qui accompagnent ces publics. Et le deuxième point, ça va être évidemment leur relation à la nature. Souvent, c'est des enfants qui... Il y a beaucoup d'enfants et même d'adultes qui ne sortent pas de leur foyer ou qui vont être accros aux jeux vidéo ou d'autres problématiques et qui fait que c'est un premier pas vers une reconnexion.
Alors, une antenne d'Anub en Mayenne, parce que déjà il y a eu une rencontre entre un projet que je portais l'année dernière, qui était un projet de jardin, forêt d'accueil, pédagogique et social. En tout cas aussi dans une démarche de rassembler des sensibilités, dans une démarche de ressourcement. Moi, je reviens un petit peu sur mon histoire. J'ai fait une formation de maraîchage, un BPREA, il y a 12 ans maintenant, qui m'a permis de me connecter à cette dimension incroyable qu'est le végétal, la terre, qui me faisait énormément de bien, qui m'a recentrée aussi. J'ai travaillé pendant 5 ans et j'ai eu à quitter cet environnement-là pour des raisons professionnelles et économiques aussi. Là, je veux y retourner, j'ai besoin d'y retourner, donc mon projet s'est focalisé sur le végétal, le jardin et la dimension forêt pour donner aussi toute cette démarche écologique qui me paraît très importante aujourd'hui. Portant ce projet-là de forêt-jardin d'accueil, je n'ai pas assisté à la présentation de Mathieu et Chloé à la Loupiote l'été dernier, mais j'en ai entendu parler, je les ai contactés, je leur ai parlé de mon projet. Très vite, ils m'ont appelé le lendemain dans mon projet en Mayenne, de l'antenne mayennaise. Déjà, on avait des propriétaires intéressés suite à une présentation que j'ai faite aussi à la Loupiote en décembre. Et une petite équipe de personnes aussi, un petit réseau de personnes intéressées pour me suivre. On s'est dit, lançons quelque chose déjà. On a déjà l'essentiel, c'est-à-dire des propriétaires intéressés, des terrains possibles. Donc on lance quelque chose.
Les forêts-jardins sont des lieux de vie. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas d'avoir quelque chose uniquement pour la biodiversité ou quelque chose uniquement pour nourrir les humains. L'idée, c'est que l'homme doit pouvoir interagir dans la nature. On a tendance, dans notre civilisation actuelle, à séparer les endroits pour la nature et les endroits pour les êtres humains. Et il faut qu'on apprenne à revivre dans la nature. Et c'est ce que proposent les jardins-forêts. Du coup, voilà, c'est aussi une occasion pour tous les publics de pouvoir se rencontrer, des enfants aux personnes âgées, des actifs aux inactifs, des personnes en situation de handicap. Voilà, et c'est ça qu'on apprécie beaucoup sur ce qu'on a réalisé pour l'instant en Normandie, c'est qu'on a tous ces publics-là qui sont présents sur le terrain, qui se côtoient, et donc c'est un projet à la fois pour la nature et pour les humains, puisque l'humain fait partie de la nature.
Vous écoutez l'Agité du local sur l'autre radio, 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. C'est le moment de la chronique du jour et c'est celle de l'agriculture paysanne. Écoutez. Bonjour Vincent, tu vas nous parler du système des AMAP. Tu fais toi-même partie d'une AMAP de Laval, les RES de la semaine.
Le monde agricole, rue dans les brancards, avec une force qu'on ne lui avait pas connue depuis longtemps. Les travailleurs de la terre, des paysages, de notre alimentation, clament leur mal-être, crient leur précarité, leur désespoir souvent, et les inégalités entre eux. Pas facile d'être paysan, pas facile d'être en charge de son lopin de terre, celui dont on connaît parce qu'on y passe sa vie, le moindre chemin, la moindre clôture, les arbres, les animaux sauvages, les différentes qualités de sol. Tout ce qui fait qu'un paysan connaît sa terre et peut l'exploiter au mieux pour espérer tirer un revenu de sa production. Cette production est ensuite vendue sur un marché très mondialisé, concurrentiel, un marché où il est possible d'acheter du blé avant même qu'il soit en terre, où la spéculation fait varier les prix de façon spectaculaire. L'activité agricole comporte déjà en soi beaucoup d'aléas. Le climat influence les rendements des cultures, la quantité de fourrage disponible pour les élevages. Mais il y a aussi les maladies, les ravageurs, sans oublier la chance ou la malchance d'avoir semé au bon ou au mauvais moment, la casse matérielle, les accidents. Si en plus de tous ces aléas, le paysan se trouve être le jeu des grandes manœuvres du marché mondial, on peut comprendre son sentiment de précarité, voire d'injustice.
Merci Vincent pour ces éclairages, mais quel est le rapport avec notre sujet qui, je vous le rappelle, est le système des AMAP ?
Le rapport, c'est que les AMAP existent en partie pour contrecarrer ces effets délétères.
Mais alors, qu'est-ce qu'une AMAP ?
AMAP signifie « Association pour le maintien d'une agriculture paysanne ». Le principe fondamental est celui d'engagement réciproque. Un groupe de personnes qui veulent manger des produits locaux et sains s'engagent à s'approvisionner auprès de producteurs qui eux-mêmes s'engagent à fournir ses consommateurs lors d'une distribution le plus souvent hebdomadaire. Cela garantit aux producteurs un débouché et aux personnes consommatrices un approvisionnement de qualité.
Et alors, qu'est-ce qui garantit cette qualité ?
Avant tout, la confiance. Chaque AMAP établit ses propres critères pour travailler avec tel ou tel paysan ou paysanne. Des labels comme le bio, par exemple, mais aussi des critères de proximité géographique. Certaines AMAP peuvent même exiger de visiter la ferme. Mais une AMAP, ce sont avant tout des personnes qui apprennent à se connaître. On peut discuter, poser des questions au producteur. Ce qu'il fait en ce moment sur sa ferme, s'il est content de la récolte des pommes, comment se passe la transformation à la fromagerie, si la période des mises bas approche. En tant qu'AMAPien, je me sens proche de mes producteurs qui, eux, se sentent proches de leurs clients. Les producteurs se sentent moins isolés et plus compris dans leur activité qui est fort complexe. Et moi, je suis heureux de savoir d'où vient et comment est élaborée mon alimentation. Vous n'imaginez pas le plaisir de pouvoir mettre un visage derrière chacun des produits qui se trouvent sur ma table. Et de temps en temps, nous allons visiter les fermes, organisons des événements festifs.
Combien de foyers font partie de l'AMAP des RES de la semaine ?
Il y a environ 200 foyers. C'est une grosse AMAP qui fournit des débouchés à une vingtaine de producteurs. Et nous existons depuis 11 ans.
Donc si je résume, grâce à votre AMAP, 200 foyers mangent de la nourriture saine et locale, faite par des producteurs dont vous connaissez le travail et à qui vous garantissez les revenus, ce qui les protège des effets du commerce mondialisé.
Oui, et les bienfaits d'une AMAP ne se résument pas à ça. La garantie d'un débouché, c'est aussi une façon de sécuriser une installation. En France, près de la moitié des agriculteurs prendra sa retraite dans les 10 prochaines années. Il est important de pouvoir encourager des jeunes agriculteurs à lancer leur activité. Et une personne installée, c'est une famille en campagne, avec les commerces, écoles et tout le tissu social qui va avec.
Je comprends tout ce qu'une AMAP apporte, mais est-ce que financièrement c'est abordable ? Parce que sauver le monde, ok, mais encore faut-il en avoir les moyens.
Une AMAP, c'est un endroit où l'on pratique des prix justes. Juste pour le producteur, qui ne va pas sous-vendre sa production, comme on l'a déjà vu pour les producteurs de lait ou de porc, mais aussi juste pour le consommateur, car il n'y a pas d'intermédiaire. Ce sont des produits de qualité, ce qui a un prix, quel que soit le circuit de distribution. Et donc on aborde une problématique générale dans la société qui concerne la place de la viande, la consommation de produits de saison, le fait de faire la cuisine soi-même. C'est avant tout une façon de se réapproprier son alimentation, de garder le contact avec la terre et de savourer la grande valeur des produits qui sont élaborés autour de nous. Quelque part, la MAP est à la pointe de l'évolution alimentaire.
Pour terminer, pouvez-vous nous dire si votre AMAP a d'autres actions que cette distribution hebdomadaire ?
Depuis quelques années, nous participons à des distributions à l'épicerie solidaire, à destination des étudiants en précarité alimentaire. Nous organisons des marchés festifs pour permettre au public de découvrir les bons produits mayennais dans la convivialité. On nous sollicite pour fournir des goûters, dans une maison de quartier ou pour les vœux du maire par exemple. Nous commençons à pouvoir être des relais entre la ville et le monde agricole alentour. Et même si les enjeux sont importants, il est possible d'y répondre par le plaisir et dans la joie.
Et donc toutes les informations sont à retrouver sur amap53.eclablog.com/eclat avec un K. L'agité du local s'arrête ici pour aujourd'hui. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Aurélien de Sud Éducation 53 d'avoir été avec nous. Merci à Vincent et merci à toi Léane. Qu'est-ce qu'on écoute ce soir sur l'autre radio ?
Ce sera une soirée musicale et elle commencera à 19h avec, eh bien, ça sera Gold Soul Theory, une émission concoctée par Yoko et Moot à eux deux. Ils ont la modeste ambition de nous faire redécouvrir les standards et autres pépites de la soul music.
Ensuite, à 20h.
Ça sera All Blues, une émission animée par Bruno.
Merci Léane, nous on vous dit à demain pour la dernière agitée du local de la semaine et on continuera d'interroger la société civile dans le cadre des élections législatives anticipées. Demain, nous serons en compagnie du président et d'une bénévole de la communauté d'Emmaüs de notre département. D'ici là, faites-le bien.
Tu peux couper la radio, Mimi, c'est fini.
Ah non, t'as pas bien écouté. Les autres émissions qui arrivent, elles ont l'air super.